Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Olivier Bonnel.
Les audiences générales ont repris ce mercredi place Saint-Pierre après la pause de l'été. Le pape est revenu sur les fruits de son voyage au Brésil fin juillet, appelant les jeunes à se transformer en espérance. François qui a aussi de nouveau exhorté à la paix dans le monde en invitant chacun à se mobiliser pour la journée de prière et de jeûne samedi prochain. Dans ce magazine, vous entendrez aussi la voix du patriarche latin de Jérusalem, Monseigneur Foy de Toile, et l'ancien évêque aux armées, Monseigneur Dubost, qui nous livreront leur regard sur la crise au Moyen-Orient. Soyez les bienvenus dans ce magazine. Première audience générale de la rentrée pour le pape François ce mercredi. Comme avant l'été, la foule était au rendez-vous pour écouter le Saint-Père. François qui a exhorté les jeunes catholiques à se transformer en espérance et à croire en leur capacité de changer le monde. Il est alors revenu longuement sur les journées mondiales de la jeunesse qu'il a présidées à Rio de Janeiro à la fin du mois de juillet, insistant sur le sens de ces JMJ, tant d'hospitalité, de fête, mais surtout d'envoi en mission. Les pèlerins réunis sous le soleil de la place Saint-Pierre étaient heureux de partager ce moment autour du pape. Audrey Radondi s'y est rendue en reportage.
Des milliers de personnes se pressent sur la place Saint-Pierre. Un groupe porte une casquette blanche et jaune aux couleurs du Vatican. Les enfants sont sur les épaules des parents, impatients de voir le pape. Solange est béninoise. Elle est venue voir son filleul prêtre à Vérone. Il l'a invité à cette audience. François est passé juste à côté d'eux en papa mobile.
J'aurais bien voulu le toucher, mais je n'ai pas eu cette chance-là. C'est seulement les petits-enfants.
Pourquoi pour vous c'était important de voir le pape?
Parce que c'est un pape hors pair, c'est un pape simple, un pape qui est proche du peuple, un pape qui aime les enfants, qui aime les jeunes, parce que l'avenir appartient aux jeunes.
Cette 15e audience générale de François a convaincu le père Aïnon de Vérone.
Je vais encourager les gens à aller parce que le pape représente celui qui nous confirme dans la foi, parce qu'il représente le vicaire du Christ. Et le voir, ça nous dit que nous avons la force et le courage d'encourager aussi nos paroissiens et tout ce que nous avons à guider dans la foi.
Pendant cette audience, le pape François est revenu sur les JMJ de Rio et s'est adressé directement aux jeunes.
Je voudrais que vous tous vous croyiez avec force. Désirez-vous être une espérance pour Dieu? Voulez-vous être cette espérance?
Des jeunes très nombreux ce matin, parmi eux Lina, cette Allemande est venue avec son école.
Je suis super contente de le voir, il est vraiment populaire. Pour moi, c'est important au moins une fois de voir le pape en vrai. C'est incroyable de voir tous ces gens si heureux de le voir. Ils croient tellement en lui.
Plus de 800 000 fidèles ont assisté aux précédentes audiences générales, selon la préfecture de la maison pontificale, un chiffre auquel il faut ajouter les nombreuses personnes qui y sont allées spontanément.
Et parmi cette foule, assise au premier rang, Vasil, 11 ans, cet orphelin de Moldavie a rencontré le pape François à la fin de l'audience générale. Il lui a remis une lettre qu'il a rédigée pour lui. Cette lettre sera consignée avec d'autres et des dessins dans un livre. Les enfants de l'Europe parlent au pape François. La publication de ce livre est une idée du secrétariat du Conseil des conférences épiscopales d'Europe. Le père Michel Remery, son secrétaire adjoint, explique cette initiative.
On a demandé à ces enfants d'écrire au pape avec l'idée de porter un petit message des tout petits de l'Europe. Alors le résultat, c'est étonnant. On voit que ce n'est pas seulement un message au pape, mais c'est un message à tout le monde, à tous les chrétiens en Europe, à tous les hommes et femmes de bonne volonté. Parce que ce que les enfants ils nous montrent, c'est un grand espoir, un espoir pour le futur. Malgré le fait que les enfants qu'on a demandé d'écrire au pape ou de faire un bel dessin pour le pape, ils viennent de circonstances pas trop faciles. Ils viennent de périphérie sociale, on pourrait dire. Ils racontent de leur situation difficile, mais seulement pour raconter. C'est comme ça, ils disent. Et puis, ils montrent une grande joie, une joie de vivre, une joie d'écrire au pape, une joie de rencontrer le pape un jour. Il y a beaucoup d'invitations à venir chez eux, bien sûr. Mais il y a aussi cette simplicité d'un rapport profond avec le pape, qu'ils n'ont pas rencontré, mais qu'on est depuis la télévision, depuis ce que les adultes racontent.
Et comment justement ils voient ce pape? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise dans leurs dessins, dans leurs lettres?
Beaucoup d'enfants, ils ont fait un dessin de Saint François. Donc il a le pape qui est en train de prêcher pour les oiseaux, pour les animaux, pour les arbres. Et une autre image qui est très touchante, c'est le pape au milieu d'une grande chambre avec des lits dans un hôpital. Et l'enfant qui a fait le dessin, il est au milieu avec le pape en train de montrer ses amis à l'hôpital.
Qu'est-ce que représente le pape pour ses enfants? Est-ce qu'ils ont conscience de sa fonction?
Le pape est leur père. C'est comme ça qu'ils le voient. Ça, c'est clair dans la lettre, c'est clair aussi dans le dessin. Il est très proche. C'est un rapport d'amour, en fait. Un rapport d'amour avec ce pape qui est loin et en même temps et qui est très proche à leur cœur. Comme ils ont un rapport avec leurs parents ou ceux qui prennent soin d'eux. Et que j'ai vu que pour ces enfants, ce n'est pas difficile à croire. Ils ne se posent pas des questions impossibles comme des adultes. Ils voient que c'est le Seigneur qui les aime et ils aiment bien le Seigneur et le représentant qui est le pape.
Comment ont réagi les enfants quand ils ont appris qu'ils pouvaient écrire ou dessiner au pape?
Ça, on voit dans les contributions. Ils sont très contents d'écrire au pape. Ils sont très contents de faire un dessin pour le pape. Il a cette joie, il a cet espoir et aussi cette foi. Donc, trois choses qu'on a vraiment besoin en Europe. Et je crois qu'avec cela, c'est un message qui peut nous aider aussi, surtout dans notre relation avec le Seigneur, la relation avec les autres, l'amour, que c'est possible de changer les choses qui semblent être impossibles à changer, et en même temps, avoir un espoir simple, comme les enfants, ils ont.
Est-ce que vous pensez, vu que le pape donne beaucoup de place à la jeunesse, qu'il va être sensible à ce livre?
Je pense qu'il va être très content avec la contribution des enfants, parce que ce sont des enfants normaux, qui vit dans toute l'Europe et qui ont voulu écrire au pape. Et je crois que ce pape, il est très conscient de ne pas être le pape d'une structure seulement. Lui, il veut être proche de tout le monde, de tous les catholiques et en fait de tous les peuples de la terre.
Des propos recueillis par Audrey Radondi. La publication de ce livre à destination du pape, traduit dans plusieurs langues, est prévue pour le mois de décembre. À l'issue de l'audience générale, François a de nouveau évoqué la situation au Moyen-Orient et une nouvelle fois invité à se mobiliser samedi lors de la journée de prière et de jeûne pour la paix en Syrie, une journée qu'il a appelée de ses vœux. « Nous vivrons ensemble une journée spéciale pour la paix en Syrie, au Moyen-Orient et dans le monde entier », a-t-il dit. « Je renouvelle mon invitation à toute l'Église à vivre intensément cette journée ». Les voix se multiplient en tout cas pour condamner tout recours à la force contre la Syrie. Ainsi, ce mercredi, le supérieur général de la Compagnie de Jésus, le père Adolfo Nicolas, a critiqué en termes forts les États-Unis et la France susceptibles d'intervenir militairement contre Damas. Sortant de sa réserve habituelle, le supérieur général des Jésuites, dans une interview publiée sur le site de la Curie romaine de l'Ordre, juge inacceptable un éventuel recours à la force en Syrie. Que ces deux pays s'unissent aujourd'hui pour une aventure aussi horrible est l'un des éléments de la colère éprouvée en bien des pays du monde, explique notamment le supérieur des Jésuites. Ce n'est pas le fait d'attaquer que nous craignons, ce qui nous atterre, c'est la barbarie vers laquelle nous sommes conduits. Un entretien que je vous invite à lire dans son intégralité sur notre site internet www.radiovaticana.va. Mardi soir, sur le réseau social Twitter, le pape François avait condamné une nouvelle fois l'utilisation d'armes chimiques en Syrie. Une position que partage bien sûr Mgr Michel Dubost, l'évêque d'Évry-Corbeil-Essonne et ancien évêque aux armées, même s'il invite à comprendre la position de la France. Mgr Dubost qui répond à Antonino Gallofaro.
Il faut toujours comprendre au fond deux choses. La première, c'est que la France a été une puissance coloniale liée à la Syrie et qu'elle a un grand intérêt à la Syrie. La deuxième, c'est que la France a été à l'origine des lois internationales ou des règlements internationaux sur l'utilisation des armes chimiques. Donc elle est très sensible à cela. Cela dit, je comprends très fortement et je soutiens tous ceux qui disent que ça n'est pas une solution que de punir. On ne fait pas la guerre pour punir, on fait la guerre pour trouver des solutions politiques.
Le pape François, depuis dimanche, mais bien avant, mais depuis dimanche plus précisément, il a une position très claire qui est celle de la non-utilisation des armes. Vous êtes plutôt, j'imagine, du côté du Vatican sur cette position.
Je suis complètement du côté du Vatican, mais j'invite ceux qui ne le savent pas à comprendre aussi la position de la France. On ne peut pas avoir milité et été à la source de tout ce qui est réglementation, pensée internationale sur l'abolition des armes chimiques et laisser passer ce qui s'est passé. Et donc, je crois que la France a une responsabilité parce que il est évident que tout ce qui a été dit sur les armes chimiques, si M. Assad peut employer les armes chimiques sans punition et sans marquer le coup, eh bien, tous ces décrets, tout cela, toute cette législation internationale tombe à l'eau. Et il me semble qu'il y a là quelque chose qu'on ne dit pas assez, dont il faut probablement tenir compte, parce que à la fois, il faut soutenir le pape François complètement, mais aussi, il faut soutenir tous ceux qui veulent empêcher et mettre hors la loi les armes chimiques. Et si on ne met pas hors la loi, si on ne réagit pas chaque fois qu'il y a l'emploi d'armes chimiques contre la loi internationale.
Si je vous comprends bien, la France doit donc réagir. Quelle serait la bonne façon de réagir, d'après vous, alors ?
C'est très compliqué, parce qu'on voit bien qu'il lui fallut probablement agir il y a 2 ans. Pour le moment, on est devant une montée des extrémismes et qu'on est complètement bloqué par les positions des Russes qui... paradoxalement, se découvrent défenseurs des chrétiens et des minorités. Pour le moment, je ne vois pas quelle est la manière de réagir. Et finalement, ce que le pape a demandé de la prière et du jeûne, c'est quand même le cri de personnes qui ne voient pas la solution politique possible aujourd'hui. Or, dans un cas comme cela, il n'y a que la politique qui peut sauver. Mais il est clair qu'il faut... absolument dire et faire en sorte que tous les pays civilisés continuent, et tous ceux qui ont signé les accords sur les armes chimiques les respectent, parce que sans ça, on s'ouvre une page très difficile.
Avec les appels à la paix du pape François, c'est aussi toute la diplomatie vaticane qui s'est mise en route. Vous pensez qu'elle pourrait avoir une quelconque résonance sur le plan international parmi les parties en jeu ?
Elle a une résonance, puisque aujourd'hui, l'opinion publique internationale finalement, pour beaucoup, n'approuve pas M. Assad, mais pour beaucoup, condamne totalement la guerre. Et donc, l'opinion internationale demande qu'on trouve des solutions, et ça fait 2 ans qu'on cherche ces solutions et qu'on ne les trouve pas.
C'est une première pour les chrétiens du Proche-Orient, une grande réunion réunissant pas moins de 70 patriarches, délégués patriarcaux, évêques, prêtres et autres responsables des communautés chrétiennes de la région sont réunis depuis mardi à Amman, la capitale de la Jordanie, à l'initiative du roi Abdallah II. Voulu par le souverain jordanien, ce sommet intitulé « Les défis des chrétiens arabes » permet à l'ensemble des représentants des diverses communautés chrétiennes de tous les pays de la région de s'exprimer et de bénéficier d'une tribune médiatique sans précédent dans le monde arabe en cette période particulièrement troublée. Parmi les personnalités présentes, Sa Béatitude Fouad, le patriarche latin de Jérusalem. Il salue la liberté de ton des participants, mais considère que la prochaine étape doit être de s'adresser à tous les musulmans de la région. On l'écoute.
Le problème, nous adressons facilement et nous trouvons une oreille qui écoute parmi les chefs musulmans. Le problème est faire arriver ces messages à la rue, à l'opinion publique. Et là, ça demande toute une éducation, ça demande un programme dans les écoles, ça demande un programme de collaboration entre les églises et les mosquées, et là, les discours religieux chez eux, chez nous, ça demande toute une gamme de programmes, c'est pas si facile. Nous demandons d'être traités avec les mêmes droits, avec les mêmes devoirs que les autres citoyens. On a dit franchement, de leur côté, même le prince Ghazi a dit très très clairement qu'il faut se rappeler que nous sommes ici avant l'arrivée de l'islam et que nous avons nos droits et nous avons nos obligations. Nous attendons toute une autre culture, toute une autre mentalité. Mais maintenant, avec ce qui se passe en Égypte et en Syrie, en Liban, en Irak, là, nous sommes conscients plus que jamais de la difficulté des chrétiens à pouvoir vivre et vivre en paix. C'est ce qui nous manque, c'est la justice et c'est la paix.
Alors, puisque vous bénéficiez de cette tribune, quel est le message principal que vous voudriez adresser à l'ensemble des musulmans du Proche-Orient ?
Nous adressons facilement et nous trouvons une oreille qui écoute parmi les chefs musulmans. Le problème est faire arriver ces messages à la rue, à l'opinion publique. Et là, ça demande toute une éducation, ça demande un programme dans les écoles, ça demande un programme de collaboration entre les églises et les mosquées, et là, les discours religieux chez eux, chez nous, ça demande toute une gamme de programmes, c'est pas si facile. Nous demandons d'être traités avec les mêmes droits, avec les mêmes devoirs que les autres citoyens. On a dit franchement, de leur côté, même le prince Ghazi a dit très très clairement qu'il faut se rappeler que nous sommes ici avant l'arrivée de l'islam et que nous avons nos droits et nous avons nos obligations. Nous attendons toute une autre culture, toute une autre mentalité. Mais maintenant, avec ce qui se passe en Égypte et en Syrie, en Liban, en Irak, là, nous sommes conscients plus que jamais de la difficulté des chrétiens à pouvoir vivre et vivre en paix. C'est ce qui nous manque, c'est la justice et c'est la paix.
Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à ce que les représentants de toutes les confessions chrétiennes du Proche-Orient se soient réunis à l'instigation d'un prince musulman ?
C'est à notre faveur, nous avons tellement besoin de ça et nous vivons dans un moment tellement critique que tous ils ont répondu à l'appel du roi et presque tous sont arrivés. Nous vivons dans l'angoisse, c'est au contraire, c'est un appel qui est à notre faveur totalement, un appel que j'espère va arriver aux autres pays musulmans. Le fait qu'il parle clairement, Ils ne veulent pas perdre même la présence chrétienne du Moyen-Orient. Moyen-Orient, la Jordanie, la Terre Sainte, sans l'élément chrétien, n'est pas le pays que nous connaissons, que nous aimons, que nous voulons.
Le pape a lancé un appel très important en faveur de la paix dimanche dernier. Il a appelé à l'organisation d'une veillée de prière samedi prochain, place Saint-Pierre. Comment avez-vous accueilli, vous, au Proche-Orient, cet appel et cette initiative ?
Très belle initiative, nous remercions le Saint-Père, mais nous, avant l'appel du Saint-Père, nous sommes mis à prier depuis longtemps parce que nous voyons que de la part des hommes, il y a peu d'espoir et nous croyons toujours au pouvoir de la prière, au pouvoir du discours de notre Seigneur quand il a dit « Je vous donne ma paix », que le monde n'arrive pas à donner, n'aime pas donner, est incapable de donner. Comme il est incapable d'enlever de votre cœur. Nous nous sommes mis en prière avant l'appel, pendant l'appel et après l'appel, on va continuer. Nous croyons au pouvoir de la prière et nous demandons ça à l'Église universelle, à tous nos amis qui nous écoutent.
C'était Mgr Fouad Toile, patriarche latin de Jérusalem, interrogé par Xavier Sartre. Les deux capitaines régents de la République de Saint-Marin, Antonella Mularoni et Denis Amici, ont été reçus ce mercredi matin en audience par le pape. Un communiqué de la salle de presse du Saint-Siège fait état d'un entretien très cordial avec François, les deux parties se félicitant pour les bonnes relations entre le Saint-Siège et la République de Saint-Marin. Au cours de l'entretien, les autorités de la Petite République et le souverain pontife ont aussi évoqué la très grave situation en Méditerranée orientale et ont relevé que seul l'engagement unanime de toutes les nations peut assurer une solution pacifique au conflit et la sécurité dans toute la région. Saint-Marin et le Saint-Siège ont aussi confirmé leur volonté de poursuivre leur collaboration constructive au niveau bilatéral et au sein de la communauté internationale. Outre leur rencontre avec le pape, les deux capitaines régents se sont aussi entretenus avec le cardinal secrétaire d'État Tarcisio Bertone, ainsi que le secrétaire pour les rapports avec les États, Mgr Dominique Mamberti. Un mot de Chine avant de refermer ce magazine. Sachez que la commission Justice et Paix du diocèse catholique de Hong Kong a déposé une plainte auprès du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, et ce pour violation de la liberté religieuse. C'est la première fois que la commission Justice et Paix se manifeste ainsi auprès de l'ONU à Genève, rapporte l'agence d'information des missions étrangères de Paris, l'agence Église d'Asie. Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue le 2 septembre, la commission Justice et Paix a souligné que les mesures politiques et religieuses imposées par Pékin aux catholiques chinois sont contraires aux principes et aux pratiques de la foi catholique et violent gravement les droits de l'homme des citoyens chinois. Cette plainte est déposée alors que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU rendra un examen périodique sur la Chine le 22 octobre prochain, une information que nous développerons plus largement dans nos prochaines éditions. Ainsi s'achève ce magazine. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.